Le Notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation, les combats du Christ au désert. Voici une conférence de Mgr Pierre Moller, évêque émérite du diocèse de Bayonne-Escaret-Oloron. Conférence enregistrée à Pau le 8 décembre 2017, lors d'une soirée proposée par le service diocésain de la formation permanente en Béarn. Ne nous laisse pas entrer en tentation, les combats du Christ au désert, Mgr Pierre Moller.
Le 13 février 2013, le pape Benoît XVI, dans une audience, invitait chaque chrétien à répondre à une question de fond. Qu'est-ce qui compte véritablement dans nos vies, dans ma vie? Quelle place Dieu y tient-il? Est-ce le Seigneur ou moi? Faire face à la tentation, ce n'est pas une théorie, c'est un fait, une expérience qui sert au moins à trois choses. D'abord, faire face à la tentation nous aide à resituer la place de Dieu dans nos choix de vie, face à ce qui nous semble bien et bon. Deuxièmement, faire face à la tentation nous sert à approfondir l'expérience humaine dès les origines. On le voit dans Genèse chapitre 3, le récit biblique montre à l'évidence que ce n'est pas Dieu qui tente l'homme, mais le serpent, le rusé, le diable, celui qui veut diviser, qui divise, qui brise l'amitié entre Dieu et sa créature. Il s'attaque même à Jésus plusieurs fois et cherche à l'éloigner de son Père. Enfin, faire face à la tentation nous est l'occasion de voir quels moyens nous prenons ou nous allons prendre pour la surmonter. Dans cette période de l'Avent, il est bon de revenir sur ce sujet à partir de nos fragilités et bien sûr à partir de la modification récente de la prière évangélique du Notre Père dans sa 6e demande. Vous savez que le Notre Père vient de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 11, et de l'évangile de Saint Luc, chapitre 11, versets 2 à 4. Alors voici mon plan. Nous verrons très brièvement l'histoire de cette modification et la signification du mot « tentation ». Deuxièmement, nous verrons les causes des tentations. Troisièmement, les caractéristiques des tentations de Jésus. Et enfin, quatrièmement, sa manière de les surmonter, qui sont incitatives pour nous et même profitables à nous. Alors, premièrement, l'histoire de cette modification. Mais avant, je voudrais, comme toujours, j'aime le faire pour les récollections et les retraites, lire un peu de l'Évangile du Nouveau Testament. Alors, dans vos prières, c'est Matthieu chapitre 6, verset 7, dans vos prières ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Mauvais avec M majuscule. Le Notre Père, c'est donc la prière issue directement de l'évangile de Saint Matthieu et de l'évangile de Saint Luc. L'évangile de Saint Luc a une formulation plus brève. À partir de ces deux textes a été composée la prière du Notre Père que nous récitons. En 1966, la version française actuelle a été, c'est bon à savoir, adoptée non seulement par l'Église catholique, mais aussi le Conseil des Églises pour la francophonie. Donc il y a eu un consensus du Conseil des Églises, protestantes, orthodoxes, anglicanes et catholiques, en 1966. Et c'est à la veillée pascale de 66 que l'usage de cette version française s'est répandu dans la liturgie catholique en France. Le 12 juin 2013, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements confirme cette traduction, comme la nouvelle traduction du missel romain se faisait attendre. Alors les évêques belges francophones ont foncé, ils ont décidé de mettre en vigueur, sans plus tarder, la nouvelle traduction du Notre Père dès la Pentecôte 2017, et ils furent suivis par l'épiscopat français qui, à l'Assemblée plénière des 28 et 31 mars 2017, décidèrent de mettre en valeur cette traduction. Pourquoi maintenant avoir modifié la sixième demande? Elle fit très vite problème. Et je suis sûr que même chacun de vous, vous devez vous dire, il y avait comme une espèce de malaise. Ne nous soumets pas la tentation. Elle pouvait donner à penser que Dieu pouvait nous soumettre à la tentation et nous éprouver en nous sollicitant au mal. Et le sens de la foi, c'est-à-dire le pifomètre, j'y peux dire, des chrétiens, sentait cela, que ça n'allait pas bien. Saint Jacques, au chapitre 1er et verset 13 de sa lettre, la lettre de Saint Jacques, dit clairement dans sa lettre que Dieu ne tente personne. Alors voilà ce qui a motivé très vite le désir de changer cette traduction. Même si elle n'était pas fautive du point de vue exégétique. Alors, ne nous laisse pas entrer en tentation. Finalement, c'est après beaucoup de discussions, c'est pour ça que je vais très vite maintenant, mais il faut bien passer par là. Après beaucoup de discussions d'exégètes, de philologues, de théologiens, de biblistes, le consensus a été trouvé, ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà. C'est-à-dire que ça induit l'idée, c'est à partir du mot grec, eis et nenkes, ça induit l'idée de marche, de mouvement, de direction, ne nous laisse pas marcher vers la zone de tentation et du péché. Voilà donc un peu l'histoire pour le premier point, et en même temps, quel est le sens du mot tentation? En grec, ce mot, je vais vous dire, il y a deux mots grecs, je vais vous les dire, mais... Tentation en grec, ça se dit peirasmos, masculin, peirasis, féminin. Ça veut dire qu'il y a deux mots pour traduire la même réalité, mais un mot qui est au masculin et un mot qui est au féminin. Ça veut dire que la langue grecque, avec son génie, sa finesse, aperçu d'emblée que la tentation pouvait être et masculine et féminine. le lot des hommes et des femmes. Deuxième petite remarque, ces noms, tentation, peirasmos, proviennent du verbe peirao, qui signifie trois choses. Premièrement, ce verbe grec veut dire essayer, faire une tentative, un essai, des essais. Deuxième sens, éprouver, dans le sens de tester, un discernement. Troisième sens, entraîner. Donc maintenant, c'est le premier point que j'ai traité, donc l'histoire très brève de cette modification qui a pris des années, beaucoup de discussions. Oui, en plus. Et moi, j'ai fait partie de cette équipe de 3 ans, qui est restée 3 ans, mais on n'a pas discuté que de ça. Mais alors toujours, il y avait la congrégation voilà, de Rome qui était là, qui n'était pas. Bon. Enfin, maintenant, nous n'en sommes plus là. Deuxième partie de cet exposé, cause de la tentation. Quelles sont les causes de la tentation ? Nous d'abord, avec nos tendances, nos fragilités, notre hérédité, notre histoire. Vous savez bien le mot de saint Paul, Romains chapitre 7, versets 18 à 20, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Donc, la tentation, ça vient aussi de nos fragilités. Deuxièmement, ça vient aussi des autres, le milieu, les influences, l'air du temps, les réseaux, les rumeurs, l'opinion publique, les médias, tout ce qui extérieurement fait pression sur nous, même si nous n'en avons pas conscience. Et très souvent, on voit que par moments, quand on discute avec des gens de 40 ans, c'est-à-dire ces gens qui maintenant, très souvent, globalement, n'ont plus du tout le contact fréquent avec l'Église, ils sont malaxés par l'air du temps. Ça nous entre par tous les pores. Et ne croyons pas qu'il y a des pays privilégiés. Dans certains pays d'Afrique, maintenant, il y a beaucoup de chrétiens très fervents, mais comme il y a un phénomène urbain très massif, tôt ou tard, ça va pénétrer. Donc, les autres, vous voyez, dans le sens global, sont aussi occasion de tentation, avec les circonstances imprévues ou non, qui nous conditionnent. Troisièmement, il y a Satan, c'est-à-dire l'obstacle, l'adversaire. La Bible évoque cette figure très ténébreuse en termes symboliques, à travers les récits où son action, ses paroles, ses projets sont toujours négatifs, sont toujours des pièges. Dans l'Écriture, il est traité d'accusateur, de diviseur, diabalo, divisé, de menteur, de prince de ce monde, Jean chapitre 14, verset 30. Le chapitre 3 de la Genèse, qui reprenait les mythes d'origine du Moyen-Orient de manière originale, le présente comme le serpent, en hébreu « arum ». Et en hébreu, ce mot « arum » veut dire à la fois « rusé » et « nu ». Et c'est cet animal symbolique qui mêle habilement le vrai et le faux pour attirer Adam et Ève, qui personnifient à eux de l'humanité. Il mêle habilement le vrai et le faux dans ses propositions séductrices. Genèse chapitre 3, verset 5, « Quand vous mangerez ce fruit défendu, vos yeux s'ouvriront, vous serez alors comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. » De fait, les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent et ils se retrouvent nus, avec le sentiment de s'être séparés de Dieu et la peur de lui. Donc Satan trompe toujours, il manipule en se servant des autres, des circonstances, de nos tendances. Le pécheur est toujours trompé. Satan a même l'art de disparaître et de se faire oublier. Enfin, il y a le quatrième auteur de la tentation. C'est Dieu. J'ai l'air de me contredire alors que Jacques venait de dire « Dieu ne tente pas ». Mais quand, dans l'Écriture, on dit que Dieu tente, c'est au sens d'éprouver. Il éprouve sa créature, mais dans un sens tout à fait différent d'un piège. Le mot « éprouver » a un tout autre contenu que celui d'humilier l'homme, de le faire tomber. C'est un moyen éducatif, c'est une pédagogie. Dieu cherche à faire surgir dans la personne humaine sa libre décision de marcher vers lui et avec lui. Dieu ne tend pas des pièges, il se sert de l'épreuve comme d'un creuset, où l'homme va manifester sa vérité profonde, son choix de vie profond. Le plomb va se changer en or avec l'aide de la grâce divine. Son fils Jésus lui-même a fait la rude expérience de cette épreuve. Déjà, le livre de la Sagesse, au chapitre 3, versets 5 à 6, disait « Dieu les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes de lui, comme l'or au creuset, Dieu les a éprouvés. » Mais là, Dieu a l'air d'être la cause première de la tentation, parce que la Bible ne connaît pas les causes secondes, les médiations. Il dit toujours, il revient toujours, le langage biblique revient toujours à Dieu. Donc voilà, voyons les causes des tentations, elles sont multiples, ce qui pour nous va nous demander beaucoup de discernement. Vous savez que un des mots clés du pape François, si c'est un bon pasteur, c'est le discernement. Comme c'est un jésuite malaxé, formé par les exercices spirituels de saint Ignace, le discernement des esprits est dans les exercices de saint Ignace un élément très important. Donc, maintenant, j'en arrive à ma troisième partie. Quelles sont les caractéristiques des tentations de Jésus? J'en trouve trois. Matthieu et Luc nous proposent une méditation très profonde sur les tentations de Jésus. Et je vais vous lire, bien sûr, celle que vous connaissez, dans saint Matthieu, au chapitre 4. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. En s'approchant, le tentateur lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le place sur le pinacle du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchent et le servent. Trois caractéristiques. Les tentations font partie de la vie de Jésus. Elles ne sont pas momentanées comme Matthieu nous les présente de façon littéraire, en trois tableaux, hein, bien cadrés. Elles ne sont pas momentanées, mais elles sont sous-jacentes. Elles peuvent apparaître à tout moment dans l'esprit de Jésus. Elles font partie de sa vie spirituelle. Deuxièmement, elles reprennent les tentations du peuple d'Israël en Exode dans le désert, durant sa longue errance de 40 ans. Mais le peuple y a toujours succombé. Jésus, lui, est arrivé à les dominer après son jeûne de 40 jours dans le désert. 40 n'est pas seulement le chiffre qui désigne un temps de calendrier, mais c'est un chiffre symbolique faisant partie du langage conventionnel désignant le temps nécessaire à la maturité des personnes et des groupes humains. Il faut du temps pour mûrir. Il faut du temps pour mûrir. Souvenons-nous-en avec nos enfants, nos adolescents, nos jeunes. Les générations d'aujourd'hui, c'est pas tout d'un coup comme ça qu'en un tour de main, on va faire changer les gens. Il faut dialoguer, mûrir. Troisième caractéristique. Donc, Jésus reprend pour les dominer les tentations du peuple d'Israël dans le désert alors qu'il y a succombé. Enfin, les tentations de Jésus sont incitatives pour nous. Quand nous les voyons solliciter Jésus, elles nous renvoient à nous-mêmes, à nos façons de les affronter ou de succomber sous leur charme. Elles nous engagent à ressembler à Jésus. C'est en cela qu'elles sont incitatives. Quatrièmement, les tentations de Jésus ou le bon usage des tentations. Satan est fin stratège. Je vous dis là des choses que vous connaissez très bien, mais enfin c'est bon qu'en un temps de l'avant, on puisse y réfléchir. Satan est fin stratège. Il attaque toujours au point sensible. Il a l'art de surprendre. Jésus vient de vivre une longue période de silence, de prière, de jeûne dans le désert. Après quoi, c'est normal, il a faim. C'est alors que le bonimenteur se présente à lui. « Si tu es fils de Dieu, dis que c'est Pierre, dis que c'est cette caillasse. » deviennent des galettes de pain, de la viennoiserie appétissante. Pour notre gouverne, sachons garder la vigilance sur deux points. Nous aussi, nous avons la tentation de satisfaire nos besoins, nos désirs, nos instincts à tout prix. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes aidés en cela par la société de consommation qui nous pousse à les satisfaire immédiatement, tout, tout de suite. On veut tout, tout de suite. À tout marchander, puisque tout devient objet à marchander, même le corps humain, le corps de la femme et de l'homme. Autre point, vigilance à garder aussi sur nos façons de résoudre nos problèmes matériels et humains. C'est le mythe du progrès technique indéfini qui supprime toute contrainte, toute souffrance, toute limite. Vous avez une espèce de plus en plus dans la télévision, une propagande à propos de l'homme qui va se transformer, l'intelligence artificielle, les robots, voilà, le modèle. C'est ici vraiment une tentation contre l'espérance. On veut supprimer toute contrainte, toute souffrance, toute limite. Or, l'espérance est justement cette vertu théologale qui consiste à attendre Dieu et le bonheur de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. C'est ça l'espérance. Recevoir Dieu de Dieu. Recevoir le bonheur de Dieu. Recevoir la grâce de Dieu. Et non pas de nous-mêmes seulement. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes faits pour devenir participants à la vie de Dieu. Donc, voyez, la première tentation s'est fait finalement en profondeur une tentation contre la vertu théologale de l'espérance. Et vous savez, la réponse de Jésus, qu'il reprend du livre du Deutéronome au chapitre 8, verset 3, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'auteur biblique nous présente Jésus comme le nouvel Israël, vainqueur de la tentation de la faim et de tout ce qui s'y rattache. Alors pour nous, quelles sont nos faims, nos avidités? De quoi sommes-nous gloutons? La gloutonnerie, c'est ça. On sourit parfois en disant que dans les péchés capitaux, c'est de la vieille histoire, c'est la gourmandise, c'est le péché qui est agréable. Mais c'est la gloutonnerie. Gardons-nous de céder au diable qui nous propose de transformer la caillasse, notre caillasse, en galette de pain. Avons-nous faim de la parole de Dieu? Comment la satisfaisons-nous? L'entretenons-nous? Quelle est notre espérance? J'ai connu un ouvrier forestier dans les Landes qui, dès le lundi matin, il commençait à lire les lectures du dimanche qui suivait. Au bout de quelques années, cet homme avait une culture biblique et une profondeur spirituelle qui étonnait même ses aumôniers. C'est à force de méditer la parole de Dieu, de la déguster, de l'intérioriser, et de s'y impliquer, de s'y baigner. Voilà. C'est cela. C'est pour cela que notre espérance s'alimente dans la parole de Dieu. Ça, c'était la tentation de la faim, qui allait directement contre la vertu d'espérance. On veut se passer de Dieu pour avoir le bonheur matériel, humain. Deuxième tentation, c'est celle de la manipulation, de l'esbrouffe, de la magie. Moi, j'ai connu comme ça des gens qui avaient eu contact avec le vaudou et qui étaient très marqués par le vaudou. Ils étaient manipulés. Ils n'avaient plus la liberté. Donc, le diable transporte Jésus sur le pinacle du temple. Et là, il l'invite à un grand spectacle. La poudre aux yeux, la magie, c'est là l'épreuve de la foi que de nombreux saints ont connue. Pensons à sœur Teresa de Calcutta, qui a été vraiment très éprouvée dans sa foi. Cette épreuve consiste à douter de Dieu, à le défier en lui demandant des preuves. Cette épreuve de la foi consiste à demander au ciel des signes miraculeux, des prodiges, pour nous épargner fatigue et chaos de la route. C'est toujours la tentation, et puis après on en veut à Dieu, parce qu'il ne nous a pas obéi, il n'a pas fait ce que nous voulions qu'il fît. Jésus lui-même a été tenté d'échapper à la condition humaine, alors qu'il était le Verbe fait chair. Il a été tenté de répondre à l'attente de l'opinion publique, qui projetait autour d'elle l'image d'un Messie conquérant. Il a été tenté par cette figure d'un Messie conquérant, facilement. Jésus, homme jeune, plein de vie, de possibilités, tenté de parvenir au succès de sa mission par des moyens faciles et éclatants, tenté de théâtraliser son être de fils de Dieu, sa mission de fils de Dieu, faire du grand tralala. C'est une tentation. Et souvent, dans nos grandes manifestations, il faut purifier son cœur, le garder en état de grande chasteté intérieure, pour éviter la gloriole. Parce que Dieu sait, et nous les évêques, nous venons d'encourager tous les prêtres de susciter des temps forts dans les diocèses. Mais en même temps, gardons-nous, parce que toute chose bonne peut être manipulable et manipulée. Gardons-nous de nous pavaner, de théâtraliser la mission que nous avons. C'est notre tentation de nous hisser dans une montgolfière dorée pour nous faire survoler les routes fatigantes et caillouteuses de notre vie. Tentation contre la foi en Dieu. Devant la vanité de nos efforts, faire appel au vertige du grand spectacle. La petite Thérèse a connu ça, sœur Emmanuel. Voilà. Faisons très attention. Nous en sommes toujours là. Moi, je vois, par exemple, des responsables laïcs, même des prêtres, pas seulement des jeunes, mais des prêtres qui ont un succès, ça va pour le moment, mais la tendance est de faire écran à Jésus. Ce n'est pas nous qui devons paraître sur la scène, c'est lui. Tentation contre la foi au Christ. Et je vois aussi des responsables laïcs qui sont très généreux, mais finalement, ils n'ont pas envie d'avoir des collaborateurs ou collaboratrices. C'est eux, ils sont indispensables, ils se sentent indispensables. Non, on n'est pas indispensable, on est utile, mais pas indispensable. C'est Jésus qui est indispensable. Voilà. Tentation contre la foi. Et c'est toujours ça. Faire écran à la personne de Jésus. Et vous savez la réponse de Jésus. Au diable qui cite habilement l'Écriture, le psaume 91, le verset 11, vous voyez, le Satan est un très bon bibliste. Excusez-moi. C'est un très bon bibliste, mais c'est un mauvais exégète. Parce que l'interprétation, il est en train de la fausser. Voilà. Il cite le psaume Dieu donnera un ordre à ses anges. Sur leurs mains, ils te porteront en parachute, en montgolfière, pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Tu seras peinard, tu survoleras tout. Jésus répond immédiatement par Deutéronome chapitre 6, verset 16. Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve, comme à Massa et à Meriba, dans Exode chapitre 17. Voilà. Vous savez qu'à un moment, Moïse avait envoyé prospecter en pays de Canaan, le pays, et ils sont arrivés dans un val qui s'appelait le val d'Escol, le val de la grappe. Et alors ces 11 envoyés, quand ils sont revenus, ils ont démoralisé le peuple. Nous avons vu là des géants, nous leur faisions effet de sauterelles. Et alors Dieu qui dit, tous ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai produits en Égypte et au désert, ces hommes qui m'ont déjà mis 10 fois à l'épreuve sans obéir à ma voix, ne verront pas le pays que j'ai promis à leur père. Oui. Oui. Toujours tendance à douter de Dieu, à se défier de lui, à se méfier de lui. Ainsi donc, dans la foi, on ne veut pas provoquer Dieu, ni le mettre à l'épreuve magiquement, ni le traiter avec désinvolture, ni lui désobéir, mais c'est lui faire confiance en attendant son heure. Dans le Cantique, au chapitre 5, verset 2, il est dit « Je dors, mais mon cœur veille. » Retenez cela, quand l'épreuve vous vient, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il ne m'écoute pas, il ne me dit rien. » Qu'est-ce que vous en savez ? C'est au moment même où le Seigneur semble muet, semble inerte, qu'il est le plus attentif à vous, à votre liberté, à votre acte de foi. C'est là, c'est à ce moment-là. C'est la deuxième tentation. La première était contre l'espérance, la deuxième contre la foi. La troisième tentation, c'est la gloire, le pouvoir, le pouvoir. Le diable transporte Jésus sur une très haute montagne. Il lui découvre tous les royaumes du monde. Il dévoile son jeu à ce moment-là. Tout cela, je te le donnerai, quelle toupée, je te le donnerai si, te prosternant, tu me rends hommage, tu m'adores. La réaction de Jésus est immédiate. Arrière, Satan, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. Deutéronome chapitre 6, verset 13. Ce serait bien si ce soir, chacune et chacun de nous, prenions une petite résolution stylistique. Ne jamais plus dire « Oh, j'adore ce spectacle. Oh, j'adore la crème au chocolat. Oh, j'adore cette robe. Adorer, me disait mon vieux curé, n'a qu'un complément d'objet direct, c'est Dieu. On n'adore que Dieu. » Alors, peut-être que ce serait bien, dans cette soirée de l'Avent, je promets, Seigneur, de ne jamais plus dire adorer. Que pour Dieu. Ce serait une espèce de purification de notre langage. Parce que maintenant, oh, c'est adorable. C'est adorable. Tout est adorable. Sans aucune différence. Mais le langage théologique et le langage chrétien met des différences. On n'adore que Dieu. Parce que nous sommes très souvent tentés par des idoles qui sans cesse renaissent en nous. Une idole, c'est le confort, c'est le plaisir des sens, c'est le pouvoir, la bribe de pouvoir que j'ai, je veux le conserver, ce sont les idéologies, c'est le prestige, c'est la mondanité, c'est telle idéologie du milieu, tel attachement, telle antipathie, c'est la gloire, c'est la gloire, c'est le pouvoir. Tu adoreras Dieu seul et tu le serviras lui seul. Très important. C'est l'absolu de Dieu. De ce point de vue-là, nous nous retrouvons dans un langage interreligieux, dans un dialogue interreligieux avec les musulmans et les juifs, parce que nous nous retrouvons dans cette croyance au Dieu unique, tu adoreras Dieu seul. Allah Akbar, Dieu est grand. Mais vous voyez comment on l'interprète après. Mais dans un langage, dans un dialogue interreligieux, à partir de cela, l'adoration, c'est pour Dieu. Il y a une quatrième tentation. Donc, ça, c'est la tentation contre la charité, contre l'amour de Dieu. L'amour absolu de Dieu. Il y a une quatrième tentation que nous oublions souvent, celle de Gethsémani. Luc chapitre 22, versets 39 à 47. Il sortit, Jésus, il se rendit comme de coutume au mont des Oliviers. Les disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation, pour ne pas entrer en tentation, priez. » Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, fléchissant les genoux, il priait en disant, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Alors lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qui trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Qu'avez-vous à dormir ? Relevez-vous. » Et prier pour ne pas entrer en tentation. Il faut prendre ces textes au sérieux. J'avais un professeur autrefois qui nous disait que cette tentation a dû durer 6 heures avec une intensité très grande qui a fait que plusieurs vaisseaux capillaires sont rompus et que la passion du sang versé a commencé là, hein, et que l'ange de Dieu le réconfortait. Entre parenthèses, c'est un des textes qu'on peut méditer et que l'on peut lire au moment où l'on reçoit, où l'on donne, si on est prêtre, l'onction des malades. Hein. L'ange de Dieu qui vient réconforter dans des grands moments d'angoisse. Les moments de la passion. Donc, Jésus est tenté jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême. Il lui en coûte une sueur de sang au jardin du pressoir et la mort sur la croix au mont du calvaire. Le calvaire, c'est l'heure du grand cri « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Matthieu 27, verset 46. L'heure du « Pourquoi ?» qui s'exprime dans un psaume d'espérance, le psaume 22. Vous savez que « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» ça fait partie d'un psaume qui finit par un acte d'espérance, hein, qui fait passer de la ténèbre au lever du soleil, de l'humiliation de l'homme vers de terre au triomphateur du tombeau. Jésus a été tenté pour nous. Matthieu montre que Jésus, le nouvel Adam, chef de l'humanité nouvelle, triomphe là où Adam, chef de l'humanité première, et Ève la vivante, avaient échoué. Adam et Ève, tentés par le séducteur de vouloir être comme Dieu, de se passer de lui, de connaître le bien et le mal, de se donner eux-mêmes comme fondement des valeurs. Vous savez, c'est encore très actuel. Bientôt, quand par l'évolution de la société, on discute de lois nouvelles, faut-il supprimer des malades en fin de parcours, ou bien des handicapés, ou bien des vieillards? Pourquoi pas les supprimer? De toute façon, ils vont mourir. Oui. L'homme qui se prend fondement des valeurs, du bien et du mal, c'est lui qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. C'est la raison pour laquelle l'Église a une mission de bonne santé, de joie, de respect de la personne humaine. En Belgique, où ils ont déjà légitimé beaucoup de choses, il y a déjà beaucoup de dérapages terribles. Il faut faire très attention à ça. Nous sommes toujours tentés de nous donner eux-mêmes comme fondement et référence des valeurs d'existence. Matthieu tient à souligner que Jésus est vainqueur des tentations auxquelles le peuple d'Israël a succombé dans le désert. Il est plus fort que Satan. C'est pour cela que, vous savez que parmi les jeunes, il y en a qui sont tentés par les sectes sataniques. Et ils sont complètement démolis. Moi, je connais des prêtres qui s'occupent de ces jeunes comme ça. Ils en ont vu, ils me disent, ils sont complètement démolis. Il faut beaucoup de temps, de douceur, de patience pour leur dire, mais c'est Jésus qui est plus fort que Satan. Beaucoup plus, c'est le vainqueur, c'est l'ami de la vie, c'est l'ami de l'homme, l'ami de la personne humaine. C'est le chef de file. En lui s'accomplit le véritable exode qui fait passer de ce monde au Père. Voilà. Alors, pour terminer, conclusion. Comment se situer, comment nous situer devant les tentations? Les tentations sont dans la vie de Jésus un mystère qui aide à le connaître et à l'aimer. Les tentations nous révèlent le conflit intérieur jamais égalé par personne dans Jésus. Jésus a vécu dans ses tentations un double écartèlement. Il a expérimenté les tentations et les souffrances de la passion alors que lui-même était Dieu, fils de Dieu, fait homme. Alors, cet homme, Jésus, a expérimenté en lui ce qui fait que dans son être de Dieu, il était comme suspendu, il donnait des arguments à l'incroyance des gens. Ce supplicié ne peut être Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et nous avec. Luc 23, verset 39. Descends de la croix. Matthieu 27. Que Dieu le délivre maintenant s'il s'intéresse à lui. Il a bien dit, je suis Fils de Dieu. Donc, il y a un écartèlement intérieur dans l'être profond de Jésus, comme Dieu, mais l'homme en même temps expérimente la tentation et le silence de son Père. Il expérimente, c'est l'autre phase de l'écartèlement, il expérimente le silence, non seulement la tentation, mais le silence de Dieu. Souffrance indicible de Jésus devant le silence, le mutisme, l'insensibilité de son Père, qui semble ne rien faire pour intervenir en sa faveur. Lui qui, toute sa vie, s'en est remis à son Père. D'où le gémissement qui lui échappe. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, les tentations nous révèlent un conflit intérieur très profond de Jésus, avec un double écartèlement venant de sa tentation, cette tentation d'homme, et devant le silence incompréhensible de son Père. Deuxièmement, les tentations sont l'occasion pour nous de nous en remettre à Jésus tenté et de participer ainsi à sa passion rédemptrice. Avec la conviction vigoureusement formulée par saint Paul, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Disons-nous cela. Il s'agit d'implorer la grâce de Gethsémani qui a fait résister Jésus à la tentation. Troisièmement, le chrétien se sait faible et fragile. Il lui faut donc, et Thérèse d'Avila disait, devant les tentations, qu'est-ce qu'il faut faire ? Fuir ! Commencer par fuir ! Ne pas faire le dur, ne pas faire le malin, ne pas croire que moi je vais résister aux tentations comme Pierre. Matthieu 26, verset 34. Si tous succombent, moi je ne succomberai jamais. Dussé-je mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Pierre, avant que le coq n'ait chanté une fois, trois fois, tu m'auras renié trois fois. Voilà. Ne pas faire les malins, fuir les tentations. C'est l'occasion pour nous, les tentations sont l'occasion de nous enraciner en Dieu, de nous tourner vers lui. Savoir que Satan a l'art de manipuler les meilleures choses, y compris la parole de Dieu. Comme dit encore saint Paul dans une formule brillante, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise, d'où l'importance du discernement spirituel. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous, voyez. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et donc, en plus, Thérèse d'Avila dit, devant les tentations, il faut fuir, il faut être humble, humble. Et troisièmement, prier, veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. Matthieu 26, verset 41, Marc, verset 14. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Donc, vous voyez, en terminant, je voudrais vous dire que il y a les tentations, les prendre au sérieux, mais savoir que ça peut être pour nous une occasion de grâce, de nous enraciner dans la foi et de nous centrer sur Jésus et sa mère, nous décentrer aussi de nous-mêmes, parce que si vous êtes tenté, très souvent, il m'est arrivé de conseiller à des jeunes comme ça, occupe-toi des autres, ne sois pas uniquement centré sur toi-même, sur les tentations que tu as. Le meilleur moyen d'échapper à l'angoisse, c'est de s'ouvrir aux autres, d'échapper à la tentation, c'est de s'ouvrir aux autres, et aussi un conseiller spirituel profond, équilibré, désintéressé. L'épreuve, tentation, ajuste l'homme au mystère de Dieu en le faisant passer par le rabot de la croix et la nuit du calvaire. Ne pas croire que nous allons comme ça. Un jour, quelqu'un m'avait dit, dans une réunion comme ça, « Oh, moi, vous savez, moi, ce qui me plaît, c'est le Christ ressuscité. » Je lui ai dit, « Mais madame, le Christ ressuscité, mais il n'est pas ressuscité s'il n'est pas mort. » Eh oui. Et alors, on a toujours tendance à psychologiser les choses, les mauvaises choses qui nous arrivent. Mais c'est l'épreuve de la croix, c'est le vendredi saint dans nos vies. Ne croyez pas, alors, c'est madame une telle qui m'en veut, ou monsieur un tel, ou quelqu'un qui m'a jeté un sort. Pas du tout. C'est le mystère de la croix que vous avez à vivre, tôt ou tard, et qui vous fait déboucher sur l'univers de la résurrection. Aussi faut-il nous jeter tout entier dans les bras du Christ et implorer de lui sa grâce de miséricorde. Invoquer aussi la Vierge Marie et lui demander asile dans son cœur immaculé. Maintenant que nous sommes au 100e anniversaire des apparitions de Fatima, on voit que la Vierge de Fatima n'a pas dit autre chose. Priez, priez, parce que tournez-vous vers mon Fils. Voilà ce que je voulais vous dire à partir de cette 6e demande. Ne nous laissez pas entrer en tentation. Ça valait la peine de voir qu'il y a un dynamisme pascal pour surmonter la tentation. C'est ce dynamisme pascal que je vous souhaite.
La prière du Notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation. Les combats du Christ au désert. Vous venez de suivre une conférence de Mgr Pierre Moller, évêque émérite du diocèse de Bayonne-Escaret-Oloron, conférence enregistrée le 8 décembre 2017 à Pau lors d'une soirée proposée par le service diocésain de la formation permanente en Béarn.